Relever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Voilà, bonjour Eric.
Bonjour Bernard.
Voilà, aujourd'hui on va faire les pigeons parce qu'on va parler de pigeonniers. Oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de pigeonniers dans notre ancienne région Midi-Pyrénées, notamment dans le Tarn-et-Garonne.
Dans le Quercy, ils sont célèbres, les pigeonniers du Quercy.
Dans le Gers, il y en a beaucoup dans le Gers. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, un peu partout. Il y en a quelques-uns, malheureusement, qui se sont écroulés. Mais aujourd'hui, il y a un engouement pour restaurer ces pigeonniers. Alors, un pigeonnier, c'est aussi appelé un colombier. C'est un petit bâtiment aménagé pour l'élevage des pigeons, domestique, bien entendu. La domestication des pigeons semble remonter ou commencer dès la sédentarisation des peuples nomades, vous voyez, ça date pas d'hier, et le début de l'agriculture. La plus vieille représentation connue d'un pigeon remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Oui, puisque le monde est né, on le dit, à Ur.
À Ur.
En France, voilà. Il y a beaucoup de colombiers. Il y en avait. C'était un signe extérieur de richesse pour les nobles, et un prolétaire n'avait pas le droit d'avoir un pigeonnier chez lui. Sauf que au bout de quelque temps, on a accordé ce droit à quelques populations.
Voilà, et donc avant la Révolution, l'élevage des pigeons faisait l'objet du droit de colombier ou droit de pigeonnier, c'est-à-dire qu'il est réservé, il était réservé à la noblesse et au clergé, même s'il pouvait être concédé à des vassaux ou des tenanciers. Le pigeonnier est ainsi un symbole de prestige et de richesse économique à cette époque, surtout lorsqu'il est vaste. Les restrictions ne sont pas les mêmes partout. Dans le Languedoc ou en Provence, par exemple, seuls les nobles peuvent ériger des colombiers à pieds ornés de créneaux et de meurtrières, mais les autres membres de la population peuvent en posséder de plus modestes s'ils ont un terrain suffisamment grand. C'est au milieu du XVIIIe siècle que les rapports des intendants envoyés à Versailles recensent 40 000 pigeonniers dans le royaume. Eh oui, tout de même.
Eh oui. Mais ces pigeons sont assez nuisibles pour l'agriculture. Les paysans ou les agriculteurs, on les appelait comme ça, c'est mieux que paysans, n'aiment pas voir les pigeons dans leurs champs, c'est le cas de le dire. De nombreuses lois cherchent à limiter le nombre de pigeons élevés qui peuvent être particulièrement nuisibles pour l'agriculture. Ils se nourrissent des semences et du grain sur pied, bien entendu, les deux en général, avant qu'il pousse et après qu'il ait poussé. Durant les périodes de semailles et de moissons, les oiseaux sont enfermés dans les pigeonniers. Ils sont autorisés, on autorise les chasseurs à les abattre à vue. Hein. Dès que vous en voyez un, vous pouvez tirer. En ville, les pigeons jugés salissants, oui, ils sont interdits, mais on en a beaucoup à Toulouse quand même. Hein. Mais de nombreux sont ceux qui observent la loi, et de nombreux habitants élèvent clandestinement ces oiseaux, notamment dans les petites volières, parfois appelées fuies, fermées par un volet où les éleveurs peuvent nourrir quelques pigeons domestiques.
Puis va venir l'époque où les pigeonniers vont se raréfier. Lors de la Révolution française, le droit de colombier est aboli. Chacun peut désormais ériger un pigeonnier qui devient alors un emblème de l'habitat rural, comme on peut le constater encore aujourd'hui. Toutefois, l'abolition du privilège entraîne la désaffection des grands colombiers, les pigeons devant souvent être enfermés jusqu'à 8 mois de l'année à cause des ravages qu'ils produisent dans les cultures. L'édification de pigeonniers se raréfie à mesure du 19e siècle, alors que l'usage de nouveaux engrais, plus rentables que le guano, se démocratise.
Alors, les pigeonniers sont érigés dans les endroits protégés du vent. Oui, ça, je ne crois pas, parce que là, on les trouve maintenant en plein champ. Des portes d'accès hermétiques et des murs lisses, munis de bandeaux en saillie, interdisent la montée des rongeurs. Effectivement, en haut du pigeonnier, avant les ouvertures, il y a cette petite bordure, c'est pour empêcher la montée des surtout des rats et des souris. Les matériaux, formes et dimensions sont variés. On peut trouver des tours cylindriques, des colombiers sur piliers, des pigeonniers hexagonaux ou carrés. Certains sont intégrés à l'habitation, tandis que d'autres sont indépendants. Il y en a un Ouga qui est intégré à la mairie maintenant.
Alors, sur le sol des pigeonniers, des abreuvoirs avec des mangeoires permettent de nourrir les oiseaux lorsqu'ils restent enfermés. Les lucarnes d'envol sur le toit sont alors obturées par une grille en bois actionnée du sol par une poulie. Chaque pigeonnier est composé de petites loges en pierre, briques, torchis ou terre cuite, sortes de nids appelés boulins, qui peuvent chacun accueillir un couple de volatiles. La richesse du propriétaire est estimée au nombre de boulins, puisque ce nombre est proportionnel à la surface des terres exploitées. Certains cherchent ainsi à accroître leur prestige en prétendant posséder plus de boulins qu'ils n'en ont réellement. C'est de cette pratique que viendrait l'expression « se faire pigeonner », Bernard.
Oui, on apprend des choses, oui. Alors, on va parler du pigeonnier de Ligardès dans le Gers. Le pigeonnier de Ligardès, la Fondation du patrimoine soutient de nombreux projets de restauration de pigeonniers, notamment le pigeonnier de Ligardès, dans ce département qui en compte de nombreux.
C'est un pigeonnier tour de type gascon à forme carrée. Il est accolé à l'habitation de ceux qui l'ont érigé au XIXe siècle, couvert d'un toit pyramidal bordé d'une génoise. Il est construit en pierre calcaire recouverte d'un enduit de chaux. Deux lucarnes d'envol sont suffisamment grandes pour laisser passer des pigeons, tout en interdisant l'accès aux oiseaux de proie plus grands qui auraient pu s'attaquer aux œufs ou aux pigeonneaux.
Malheureusement, le toit du pigeonnier s'est effondré il y a quelques années et le reste de l'ouvrage risque de s'écrouler également. La restauration n'est pas entreprise rapidement. La rénovation complète du pigeonnier permettra d'installer un point d'information touristique, j'espère que ce ne sera pas pour des pigeons, avec un espace d'exposition, ce qui dynamisera le centre-bourg de Ligardès, étant, vous le savez, une petite commune rurale qui ne compte que 216 habitants.
Alors, on va aller maintenant au pigeonnier des Ursulines qui se trouve à Grenade, en Garonne, pas très loin de Toulouse. L'ordre de Sainte-Ursule est un ordre religieux catholique fondé en novembre 1535 à Breccia, en Lombardie, par Saint-Angèle Merici. Cet ordre est principalement consacré à l'éducation des filles ainsi qu'aux soins des malades et des nécessités dans de nombreuses maisons qui sont appelées couvents des Ursulines. La communauté des Ursulines est fondée par Louis XIII à Toulouse en 1611. En 1624, elle s'installe à Grenade dans une maison qui leur est donnée par le marchand Jean de Pintis, ce qui permet de développer l'enseignement des filles. La communauté, de plus en plus importante à mesure du temps, compte jusqu'à 60 sœurs au XVIIIe siècle. En 1793, l'ensemble des biens du clergé est nationalisé et les sœurs sont chassées.
Oui, alors on a une rue des Ursulines qui est pas loin ici de la place du Pont Vieux. Du pont de pierre plutôt, parce que c'est pas le pont vieux, le pont de pierre. Le pont de pierre dans la rue des Ursulines, elle rejoint la rue Gambetta. Et c'est vrai que Toulouse a été riche de monuments conventuels. Saint-Dominique, beaucoup de dominicains, beaucoup d'Ursulines, toutes ces sœurs qui ont émigré après se retrouvent à la campagne. Très beau cloître aussi, très beau couvent à Grenade.
Le pigeonnier et l'orangerie des Ursulines sont transformés en hôpital militaire, puis scindés en plusieurs parties pour accueillir des habitations. En 1948, la famille Régnier-Beck, toujours propriétaire, acquiert la propriété correspondant à la moitié nord de l'ancien couvent. Si certaines parties de ce couvent sont inscrites au titre des monuments historiques depuis 1988, ce n'est pas le cas de l'orangerie et du pigeonnier, qui présentent néanmoins un intérêt certain. En bordure du quai de la Garonne, le pigeonnier présentait en 1948 un toit avec un chien assis et une girouette. Aujourd'hui, la toiture du pigeonnier est étanche, mais ne correspond absolument pas à son aspect d'origine, avec ses ceintures de béton et ses pignons en briques d'usine.
Le projet de restauration consiste à restituer la toiture, son aspect d'antan, tout en sauvegardant et en valorisant cet ensemble qui se dégrade peu à peu, afin de l'intégrer dans un parcours de visite de l'abbaye. Devant le coût conséquent des indispensables travaux et cette opération d'envergure, Nous vous demandons de contribuer à la collecte en envoyant votre chèque, bien entendu, à la Fondation du patrimoine, dont vous connaissez l'adresse, vous la trouverez facilement sur votre site internet.
Et voilà, pour les pigeonniers. Au revoir Bernard, à la prochaine fois.
On parlera peut-être des pigeons de Venise à la prochaine fois.
C'est une idée. Mais je ne sais pas si la Fondation du patrimoine.
Bonne semaine.
On a des
Venise, il y aurait trop de travaux.
Oui, je crois.
C'est dommage.
Au revoir.
Au revoir.